Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruault de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Rue 89 Bordeaux. On va parler révolution douce et ferme aquaponique. Pauline, la ferme urbaine qui ne manque pas d'air à Lormont, c'est le titre de votre article. Bonjour, Héloïse Bajou.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous êtes photojournaliste au sein du collectif Macadam Press et vous travaillez notamment pour Média TV et Rue 89 Bordeaux. Dans cet article, vous vous êtes intéressée à une ferme urbaine expérimentale et prometteuse à Lormont. Pauline Air Farm est la première ferme aquaponique de Bordeaux Métropole et aussi l'une des plus grandes installées en zone urbaine en France. Avant toute chose, c'est quoi une ferme aquaponique ?
Alors une ferme aquaponique, c'est une exploitation qui mélange les techniques d'hydroponie, donc de culture hors sol dans un substrat liquide, et d'aquaculture. Le substrat, les nutriments sont apportés aux végétaux par des poissons qui grandissent dans des bassins dans la ferme. Alors c'est une technique assez ancienne hein, qui est retrouvée il y a 2500 ans en Chine par exemple, où on retrouvait déjà des carpes dans les rizières ou chez les Aztèques. Où on retrouve aussi des traces de culture sur des îlots artificiels en terre au milieu de lacs pour pouvoir justement récupérer les nutriments des poissons.
Alors, on va revenir sur la naissance de la ferme Pauline. De quand date-t-elle? Quelles sont ses particularités, ses atouts et où est-elle installée exactement?
L'endroit où est installée la ferme est vraiment le point fort de ce projet. C'est une grande serre qui fait plus de 1000 mètres carrés, qui est installée sur une friche industrielle de l'autre côté de l'eau, qui est de Braza, une friche qui appartenait à Bordeaux Métropole et à la SNCF, qui leur a été mise à disposition. Et donc, la serre est sortie de terre l'année dernière. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que l'exploitation est en mode de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment un des points forts de ce projet, puisque, comme on le sait, les terrains qui sont de l'autre côté, sur cette zone industrielle, sont pollués aux métaux lourds. Et justement, le système d'aquaponie permet de pouvoir avoir une culture qui est complètement isolée du sol, qui n'est pas incompatible avec ces terrains pollués, et de ramener de l'agriculture dans des lieux où, normalement, il n'est pas censé y en avoir. Et du coup, depuis un an de roulement plein, la ferme a réussi à produire 20 tonnes de légumes et 2 tonnes de poissons.
Je veux rester dans la vieille ferme. Je veux rester dans la ferme des prés. Je veux rester dans la vieille ferme. Je veux rester dans la ferme des prés.
Qui sont Sandra et Thomas, les fermiers urbains à l'origine de Pauline Air Farm? Qu'est-ce qu'ils cultivent et quel est leur objectif?
Pauline Air Farm est donc créée à l'origine par Sandra et Thomas, auxquels s'est jointe Laura. Thomas, au départ, est un entrepreneur qui a travaillé beaucoup dans le milieu associatif, dans la solidarité internationale, sur de la recherche de partenariats et après sur une start-up de commerce de loisirs. Et Sandra, elle a une formation beaucoup plus agro, hein. Elle vient vraiment de ce milieu-là, mais tous les deux sont des enfants de la région, en fait. Petits enfants d'agriculteurs et ont eu, à un moment donné de leur vie, l'envie de ce retour aux sources, un questionnement autour de comment s'alimenter autrement, et ils ont décidé de se lancer dans l'aventure. Et ils ont été rejoints donc par Laura, qui est le côté créatif du trio et qui s'occupe plus de la partie packaging, commercialisation et des recettes. Ils font tout eux-mêmes. En fait, ce trio-là a créé l'ensemble de la chaîne de production, depuis le terrassement de la ferme, l'installation des bacs, jusqu'à la commercialisation, le démarchage des commerçants chez qui ils mettent en vente leurs produits de A à Z. Et même là, ils me racontaient quand je suis allée faire le reportage qu'ils étaient en train, suite à un excédent de production de basilic, de créer leur propre pesto dont ils ont élaboré les recettes ensemble dans leur cuisine.
Vous dites que Sandra et Thomas ont été inspirés par la ferme Gotham Greens installée sur un toit de supermarché à Brooklyn en 2011. Qu'est-ce qui leur a plu dans ce projet ?
Alors essentiellement, ça a été Thomas raconte ça très bien. Il raconte que ça a été une prise de conscience pour lui de trouver donc Gotham Greens. C'est vraiment une serre tout en verre, architecture ultra moderne posée sur un mall, un grand supermarché américain en plein centre de Brooklyn. Donc vraiment pas l'endroit où lui s'attendait à trouver de la culture de salade, d'aromatique, etc. Et ça a été une vraie prise de conscience pour lui. Qui est plutôt citadin, habitué à la vie nocturne de centre-ville, de se demander d'où vient ma nourriture. Comment est-ce que, en vivant en ville, je rends ça compatible avec ce que j'ai connu, avec mes grands-parents agriculteurs, avec les valeurs très terriennes que j'ai. Et c'est comme ça qu'il a commencé à se poser des questions lui-même sur la distance, par exemple, que parcouraient les aliments dont il s'alimentait au quotidien, et comment révolutionner un petit peu ce modèle. Et c'est vraiment ça qui est à l'origine du projet Pollinaire Farm à Bordeaux. C'est à la fois l'envie de renouveler ces modes de consommation, de ramener la culture traditionnelle terrienne dans les centres-villes. Notamment, on le voit bien, hein, sur Bordeaux Métropole, avec la disparition des zones maraîchères traditionnelles de Blanquefort, de Bouscat, la culture qui pouvait y avoir encore dans certaines parties de la métropole, de la fête de la patate, par exemple, ou de cette proximité, en tout cas, des gens qui cultivent la terre et qui nous apportent de la nourriture, de la ville a disparu. Et c'est vraiment ça qu'ils ont envie de ramener aussi. Alors, avec des techniques qui ont été renouvelées, qui s'adaptent au terrain disponible qui nous reste sur la métropole, mais il y a vraiment ça au cœur de leur démarche, suite à la visite, justement, de cette expérience américaine.
Alors, chose très étonnante, vous parlez de quelques 5000 truites arc-en-ciel produites dans cette ferme, un chiffre assez surprenant. De quoi se nourrissent les poissons? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas là sur un élevage de masse qui va un peu à l'encontre de l'idée qu'on se fait d'une pisciculture raisonnée?
Eh bien non, parce que c'est 5000 truites en tout sur l'année. En termes d'espace d'eau disponible par poisson dans les bacs, c'est tout à fait conforme, même au-dessus des standards de bien-être animal. C'est vraiment une question qu'ils se sont posés à la ferme. Et quand on les voit, en effet, hein, c'est des poissons qui ont de l'espace pour nager, qui circulent et qui vont bien, semble-t-il. Après, c'est vrai que ça paraît impressionnant comme ça. Et pour la question de l'alimentation, c'est des poissons qui sont nourris exclusivement à partir de croquettes d'aliments bio, qui n'ont pas d'antibiotiques, pas de traitement, pas de vitamines, pas d'apport autre que des aliments naturels.
Donc si j'ai bien compris, poissons, bactéries et végétaux sont le cocktail indispensable pour une production en circuit court dans une ferme aquaponique. Pourquoi ?
Le mieux, c'est de le voir. C'est vrai que c'est assez difficile à imaginer. L'ingrédient, en fait, c'est de l'eau donc en circuit court. Donc c'est une agriculture, en plus, qui est très peu consommatrice d'eau. C'est l'équivalent en consommation d'eau de la consommation d'eau d'un couple avec deux enfants. Et donc, les poissons sont dans des bassins. Les déjections des poissons produisent de l'ammoniac, qui sont dégradés en nitrite puis en nitrate par des bactéries, filtré et redistribué par une pompe à des grands bassins sur lesquels flottent des petits radeaux sur lesquels poussent les végétaux, les salades, les aromates, etc. Les végétaux récupèrent tous les éléments nutritifs de l'eau qui repart en circuit fermé et refiltré et redistribué aux poissons et oxygéné, en fait. Les végétaux, à l'inverse, si les poissons donnent des nutriments aux végétaux, les végétaux réoxygènent l'eau et la renvoient oxygénée aux poissons.
Ouais, donc c'est extrêmement ingénieux. À la Pollinaire Farm, pesticides et insecticides sont bannis. Du coup, comment sont traitées les plantes infectées ?
Alors, avec des insectes. Il y a des coccinelles, avec des animaux, les lézards, les papillons, les araignées, etc. Et avec des hormones aussi. Des produits, des petits diffuseurs comme on peut en retrouver dans les vignes, qui sont accrochés à droite à gauche. Et après, avec les techniques manuelles traditionnelles, une plante qui est infectée, si on sait qu'on ne trouvera pas de traitement, on l'arrache. Tout simplement.
C'est une dinde et ses dindonos sur le boulevard des cachalots en train de donner des noms d'oiseaux aux vendeurs d'asticots. Des pis et puis cucuis, la rumeur va bon train, le scandale s'éternise, voilà les chouettes. V'là la nuit. Pays bouffant son macadam en linge précieux, bijoux en or à la station de métropotam à 15 dans l'escaligator. Y'a trois gazelles qui font du zèle à trois lionceaux, Alma Marceau et un vautour déploie ses ailes, vole la feuille d'un escargot en escarpin.
Alors, pas de label bio, mais des produits sains, naturels, 100% locaux et responsables. Quelle est la recette de cette révolution douce ?
Des techniques traditionnelles, remise au goût du jour, une vraie réflexion aussi autour de l'écosystème dans lequel s'implante la ferme. Les produits sont distribués donc via la ruche qui dit oui, directement au restaurateur ou même directement à la ferme, et sont amenés, sont véhiculés grâce à l'atelier remue-ménage. Il était important pour eux de faire travailler le tissu associatif local. Ils ont des partenariats avec les écoles pour que les enfants viennent en visite de la ferme pour justement travailler la question de la culture agricole sur le territoire. Ils connaissent extrêmement bien leurs voisins. Ils sont vraiment implantés dans la vie du quartier. Et je pense que c'est ça aussi la réussite de cette ferme, c'est d'avoir pensé tout un écosystème autour d'eux et de faire vivre la vie et de Lormont, puisqu'ils sont sur la commune de Lormont, et aussi de la métropole, de vouloir vraiment tisser autour d'eux d'autres initiatives.
Alors, vous venez d'y répondre un petit peu, mais à qui sont destinées les denrées produites par la ferme urbaine ?
Alors, au tout début du projet, essentiellement aux restaurateurs. Et puis, il y avait vraiment eu un engouement. Ils sont vite rendus compte que, en termes de production, ils arrivaient à suivre. Donc, la ruche qui dit oui. Et après, en direct. On les trouve aussi, pour tout ce qui est des aromates, des fois devant certains commerçants d'épicerie fine ou même certains restaurateurs.
Alors, d'après la Fédération française d'aquaponie, une vingtaine de fermes aquaponiques existent en France. Dans votre article, vous mentionnez la coopérative agricole de l'eau à la bouche, au Pou, près de Créon. Quelles sont les différences entre les deux fermes ?
Il y a des différences d'infrastructure, des différences de taille aussi, et après des différences qui sont essentiellement structurelles en termes d'organisation, etc. En termes de mode de production, il n'y a pas de différence vraiment notable. C'est surtout le projet qui diffère. Est-ce qu'on est plus sur un projet associatif pour de la réinsertion professionnelle, par exemple, ou pour juste de l'autosubsistance d'un petit village, etc. Ou est-ce qu'on est plus sur un projet comme Apolline, où le but, c'est d'amener une alternative alimentaire à des consommateurs urbains. Voilà, c'est vraiment plus une question de philosophie, les différences principales, que de mode de production en soi.
Et les habitants de la métropole dans tout ça, eh bien, vous dites qu'ils ne sont clairement pas très écolo-friendly en termes d'habitudes alimentaires. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors il y a plusieurs études qui ont été menées sur à la fois les distances qui sont parcourues par les aliments qui sont consommés par les habitants de la métropole et à la fois sur le niveau d'autonomie alimentaire de la métropole. Et on fait partie des métropoles à Bordeaux qui sont les moins bien classées sur la question de l'autonomie alimentaire. Alors qu'on est dans une région qui pourrait le permettre. On est entouré de zones traditionnelles de production, que ce soit Marmande, que ce soit la Charente, les Landes, voilà. Mais on a des modes d'alimentation qui sont quand même qui reposent essentiellement sur les réseaux d'approvisionnement industriels, et du coup notre alimentation fait des centaines de kilomètres pour arriver dans nos assiettes. Et c'est un petit peu ça qui est intéressant avec ce projet, même si le but de Pollinaire Farm n'est clairement pas de révolutionner et de changer drastiquement le taux d'autonomie alimentaire de la métropole, ils n'en ont pas les moyens à eux tout seuls, ça vient quand même nous interroger sur la question de la distance que produisent ces aliments et de à quel point on est capable ou pas de relocaliser notre mode d'alimentation.
Au-delà des productions, la ferme Pauline est aussi une aventure humaine, comme vous l'expliquez à la fin de votre article. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des partenariats créés, des personnes, enseignants, associations et habitants du quartier qui gravitent autour de la ferme ?
Il y a par exemple 3 partenariats avec des enseignants qui viennent faire des visites pédagogiques de la ferme pour par exemple des projets autour des différents modes d'agriculture. Donc pour expliquer déjà aux enfants comment est-ce que on peut produire juste à côté de chez soi, en plein centre de Bordeaux, enfin de Lormont en l'occurrence, mais en plein centre d'une métropole de l'alimentation. Il y a des partenariats avec l'atelier remue-ménage, comme je le disais tout à l'heure. Ils servent de chantier d'insertion aussi. Ils ont des gens qui viennent visiter la ferme pour apprendre comment est-ce que on produit en agriculture aquaponique, et ils sont preneurs de toutes les initiatives. Thomas me racontait, quand il y a des tempêtes, naturellement, les voisins vont lui envoyer des photos pour le rassurer s'il n'est pas sur place, pour lui dire « tout va bien, regarde, ça s'est pas envolé, il n'y a pas de souci ». Et pendant le confinement, même chose, les gens se sont organisés dans le quartier pour venir leur commander des paniers, se les livrer entre eux. Voilà, c'est vraiment la petite graine qui fait naître des solidarités autour d'eux de manière assez naturelle.
Économiquement parlant, comment la ferme Pauline se rémunère aujourd'hui ? Est-ce que c'est un modèle pérenne et est-ce que ça le sera demain ?
Eh bien, c'était leur grand pari. Et donc, quand j'ai visité la ferme, quand j'ai fait cet article, Thomas était tout heureux de m'annoncer que ça y est, ils étaient rentables en un an et demi d'exploitation. Ils ont atteint le niveau de rentabilité pour la surface qu'ils avaient. Ce qui, en soi, était déjà un gros pari, puisque eux, leur pari de départ, leur objectif de départ, c'était vraiment de prouver que, sans avoir des surfaces extraordinaires, ils pouvaient atteindre la rentabilité. En sachant qu'ils avaient quand même toutes les aides de départ, de lancement, et qu'il va falloir le pérenniser dans le temps. Ça, pour l'instant, voilà, ça reste encore incertain, mais en tout cas c'est très bon signe et ça semble très bien parti.
Alors avant de conclure cet épisode de podcasting, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette ferme urbaine expérimentale, vous qui êtes allé à la rencontre de Sandra et Thomas. Quelles ont été vos impressions et pensez-vous que ce type de ferme a un bel avenir dans la métropole bordelaise ? Quels sont un atout pour nous et pour nos villes ?
Alors, je ne vous cacherai pas qu'en bonne campagnarde, en bonne rurale, j'étais quand même assez sceptique. Enfin, sceptique. J'étais curieuse, mais pour moi, les légumes, ça pousse dans la terre. Donc, j'étais un petit peu curieuse, mais avec quelques précautions quand je suis allée visiter la ferme. Et en fait, Sandra et Thomas sont tellement investis dans leur projet, tellement pédagogues, tellement... certains de ce qu'ils font et ont tellement maîtrisé tous les différents aspects de ce projet que j'en suis repartie vraiment convaincue que c'était une initiative en tout cas porteuse et sur laquelle il fallait vraiment se pencher et qui méritait d'être répliquée et voilà d'être un peu mieux connue parce que ne serait-ce que pour les questionnements qu'elle véhicule, pour ce qu'elle apporte comme réflexion autour de nos modes d'alimentation, nos modes de production, etc., c'est extrêmement intéressant. Après, écologiquement, il y a des avantages, des inconvénients. C'est vrai que là, en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation d'eau, c'est très intéressant. Il y a des points à améliorer, probablement, notamment autour des radeaux qui servent à supporter les plantes quand elles poussent, qui sont en mousse alimentaire, donc qui ne sont absolument pas nocives pour le consommateur, mais quoi qu'il en soit, qui sont destinés à être jetés à terme. Voilà, il y a quelques petits points d'amélioration, mais après, il n'y a jamais rien qui est parfait de toute façon. Mais rien que pour ça, voilà, rien que pour cette réflexion autour de comment est-ce qu'on s'alimente, comment est-ce qu'on utilise des terrains qui sont pollués pour pouvoir réimplanter de la culture agricole en ville, et rien que pour toutes les valeurs qui sont portées par ces porteurs de projets-là, ça vaut le coup, en effet, de se pencher sur la question.
Merci beaucoup, Héloïse Bajou, d'avoir été avec nous.
Merci.
Je rappelle le titre de votre article, il s'appelle « Pauline, la ferme urbaine qui ne manque pas d'air à Lormont » et il est à retrouver sur le site de Rue 89 Bordeaux.
Merci Marion Ruot, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci aussi à Anne-Charlotte Delange et Mathilde Leuil qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Taïeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.